L'Observatoire de l'espace du CNES vous accueille dans son studio cosmique, un espace d'élaboration d'un nouveau lieu d'art pour construire ensemble l'hypothèse d'un centre d'art contemporain en orbite terrestre. À peine l'expérience de pensée a-t-elle commencé que des questions concrètes se posent déjà. Quelle scénographie pour une exposition en impesanteur, sans haut ni bas? Quelles œuvres sont pertinentes en flottement? Faut-il qu'elles évoquent nécessairement l'espace? Au cours des prochains épisodes, nous allons donc entrer en dialogue avec différents artistes qui travaillent avec l'espace pour appréhender la stratégie curatoriale d'un centre d'art contemporain arrimable à la Station Spatiale Internationale. Bonjour Véronique Bellan. Dans quel espace étiez-vous la dernière fois que vous êtes prise en photo ?
C'est une excellente question, je ne sais pas. Dans un ascenseur.
Dans un ascenseur. Ouais. Et est-ce que dans l'espace, l'art peut aller plus loin que le selfie ?
J'espère.
Alors on va essayer voir comment, ensemble, pour faire plus ample connaissance, nous allons commencer par sonder vos préférences. Véronique Bellan, est-ce que vous préféreriez être enfermée un an dans le centre d'art, sachant qu'une journée dure 45 minutes et qu'une nuit dure 45 minutes, ou être enfermée 2 heures avec Elon Musk dans un bureau de la NASA ?
La question, Pierre. Genre, je vais prendre les 2 heures avec Elon Musk parce que peut-être qu'on pourra discuter.
D'accord, donc vous avez des choses à dealer avec lui.
Sans doute, oui.
Pour le titre d'une expo dans l'espace, vous préférez immersion centrifuge ou tourner en rond en très grand ?
Tourner en rond en très grand.
C'est l'image que vous faites de ce qu'on peut faire d'artistique dans l'espace ?
Non, mais ça me rappelle cette idée de chute libre, finalement, qui est l'orbite, par exemple, de la Station Spatiale Internationale. Je dis, c'est comme une chute qui tourne en rond, comme ça.
Donc ce serait emblématique de ce qu'on fait, quoi qu'il en soit, en y étant.
Ouais.
Et pour le sous-titre, vous préféreriez de l'esthétique transactionnelle spatialisée ou une phénoménologie de la sensibilité en l'air ?
Je vais prendre le deuxième, que je ne vais pas répéter parce que je ne suis pas sûre de me rappeler complètement.
Alors, ce serait une phénoménologie de la sensibilité en l'air.
Ouais, c'est pas mal.
Vous avez l'impression d'aborder ça quand vous pensez art dans l'espace ?
Pas spécialement, mais j'aime la manière dont ces mots-là ensemble apportent une certaine magie, une certaine ouverture. Lecture poétique de tout ça, en tout cas.
Est-ce que, sur Terre, pour le coup, vous préférez les forces centrifuges ou les forces centripètes ?
C'est marrant, ça, toutes ces questions. Je ne sais pas choisir.
Vous êtes toujours entre les deux ?
Ouais, c'est ça.
Vous cherchez à être entre les deux ?
Non, pas vraiment. Je ne pense pas que je cherche à être entre les deux, mais il y a, polarité, je dirais, entre les deux.
Alors, parmi tous les objets qui peuvent être ou qui sont dans l'ISS, auxquels est-ce que vous préférez vous identifier ?
Je dirais le bras canadien.
Ah, c'est quoi ?
C'est le bras qui est sur la Station Spatiale Internationale et qui sert, alors là il y a des termes très scientifiques pour l'expliquer dont je ne me rappelle plus, mais globalement qui sert à transporter des éléments d'un endroit à un autre. Voilà.
Donc, et pourquoi il est canadien ?
Parce que c'est le Canada qui l'a fabriqué. Et du coup, donc c'est la petite blague parce que on l'aura compris, je suis canadienne. Mais aussi parce qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, cette idée de bras robotisés, etc.
Ça fait partie
de mon travail. Voilà, donc,
actuel.
Actuel, exactement.
Pour fêter le Yuri Day, qui est la journée mondiale des vols habités le 12 avril, vous préférez faire un space cake ou un watch Russian ?
Un space cake, on aurait beaucoup de plaisir.
Plutôt space cake.
Oh, oui, allez.
Ok. Et au bout de combien de temps vous pensez vous ennuyer dans une station spatiale ? Au bout de 2 heures ou de 2 jours ?
2 jours au moins, voire plus.
Voire plus ?
Ouais.
Ah, vous êtes optimiste.
Ah ouais.
C'est bien. Et dans le mot astromobile, qu'est-ce que vous préférez ?
Astro. j'aime tout l'imaginaire que ça déploie. Cette idée de pouvoir... rouler sur différentes, dans différents contextes, sur différentes planètes, sur tout cette.
Vous l'imaginez roulant, l'astromobile ?
Pas forcément, ou si, entre autres, ou volant, ou peu importe, ou juste se déplaçant, mais en tout cas, cette idée de pouvoir se déplacer ailleurs que sur Terre.
Alors, faisons connaissance avec votre travail. Vous mobilisez un générateur de texte aléatoire par la fluctuation des ondes radio en provenance du cosmos. Est-ce que ça veut dire que vous attendez de l'espace des perturbations encore plus aléatoires, de ce que l'on peut entendre, de ce que l'on peut dire ?
Je dirais que dans ce cadre-là, peut-être je présente un petit peu l'œuvre. Donc, c'est une installation qui s'appelle This is Major Tom to Ground Control, qui a été réalisée en 2012, hein, donc qui date quand même un petit peu. Et donc, qui utilise un flux d'ondes radio qui provient du cosmos pour générer du texte. Et donc, pour répondre à la question, pour moi, en fait, c'est vraiment l'idée d'utiliser un flux, en fait, vraiment d'avoir cette masse informe d'informations qui vient effectivement perturber un protocole en place sur Terre et qui permet vraiment voilà, d'induire l'aléatoire au sein du...
Et alors, comment est-ce que la fluctuation des ondes radio peut, pour le coup, modifier le cours de fonctionnement d'un générateur de texte ?
Alors, dans ce cadre précis, donc le générateur de texte a été réalisé spécifiquement pour l'installation. Donc, c'est un programme informatique qui répond finalement à ce flux donc cosmique qui arrive. Donc, les ondes radio sont en fait, c'est des données qui sont chargées de ce qu'on appelle des descripteurs numériques. Donc, des informations contenues dans le signal que les scientifiques utilisent à des fins scientifiques et que moi je détourne pour en produire quelque chose de plutôt poétique. Et du coup, donc, ces différents éléments viennent influencer le comportement du générateur de texte. On transpose les informations du signal sur le signal produit par le générateur. Ça crée des choses très, pour parler de manière très concrète, hein, peut-être pour que les gens puissent comprendre comment donc ce texte est généré. Par exemple, si on a un signal qui est très riche, dans lequel il y a énormément d'informations, la machine va pouvoir parler en faisant des phrases bien construites, longues, etc., où on pourrait presque avoir l'impression que c'est un être humain qui nous parle, parce que ça fait à peu près sens. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et au contraire, si le signal est très pauvre, la machine ne va pas réussir à parler. Elle va balbutier un mot par-ci, par-là, mais vraiment marquer de non-sens. Donc c'est vraiment le contenu de la matière, finalement, à l'étude par les scientifiques qui vient donner le caractère au texte, quoi.
Alors, il existe une version sonore dont on va entendre un extrait qui va nous donner un peu une idée de ce que dit ce générateur.
C'est la catastrophe ultraviolette, une vérité qui puisse se voir. De règles qui définissent un langage afin de faire croire qu'ils étaient capables de communiquer avec un autre corps suivant les catégories du juste ou du méchant, ce qui l'empêche dans un premier temps de l'élaboration de la relativité générale.
Et alors un peu plus tôt dans Major Tom, le générateur dit « Aucune chronologie n'est cependant certaine ». Vous validez cette idée ?
Tout à fait.
Vous validez tout ce que dit ce générateur ?
Non, pas du tout. Mais par contre, oui, dans ce cas, chronologie, de notre rapport au temps, passé, présent, futur, etc.
Et alors, qui a pu bien mettre le mot « cependant » dans le vocabulaire du générateur ?
Sans doute beaucoup de monde. En fait, le fonctionnement du générateur de texte aléatoire, pour que la machine arrive à parler, il faut lui donner énormément de textes à lire, entre guillemets. Évidemment, la machine ne sait pas lire. C'est un apprentissage statistique, donc on lui donne des quantités astronomiques de textes et la machine comprend qu'il y a des mots différents parce qu'il y a des espaces entre les mots et elle étudie la probabilité d'apparition d'un mot suivant. Donc il y a énormément de contenu qui a été donné à la machine et je pense que finalement cependant a dû se trouver dans plusieurs textes de différents niveaux d'apprentissage et je ne saurais pas dire c'est le cependant de qui.
D'accord. À propos de votre travail, la curatrice Nathalie Bachand dit que la part perceptible du monde est la porte principale ouvrant sur l'éventail d'expériences sensibles qui nous connectent à l'existence ou à tout le moins au sentiment d'exister. Mm-hmm. Là encore, les expériences spatiales promettent d'ouvrir une porte encore plus grande.
Certainement. Enfin, d'ouvrir une porte, en tout cas, sur une manière d'être au monde qui est très différente que notre vie sur Terre où on ressent par exemple le poids, je sais pas, la gravité qui nous attaque, etc. Donc oui, forcément, on pourra percevoir différemment.
Un monde plus grand, avec des portes plus petites.
Oui, peut-être.
Ouais. Alors voici une hypothèse sonore. Est-ce que vous entendez plutôt une grande porte ou une petite fenêtre ?
Est-ce que j'ai le droit de dire une petite porte ? Non, oui. Ouais, une grande porte.
Ou une grande fenêtre ? Non.
Non.
Vous entendez quelque chose devant, derrière ?
Derrière ?
Ah oui. Mm-hmm. Donc ça ouvre ou ça ferme ?
Ah ben on a envie d'ouvrir pour voir ce que c'est.
Donc la part perceptible du monde s'en trouve déplacée ou ?
Eh ben dis donc, c'est des grandes questions. Enfin, tout, je me permets de répondre par rapport à mon travail. Enfin, ce qui m'intéresse dans la vie en général, enfin dans ma démarche artistique, c'est justement la part imperceptible. Moi, quand j'entends un son comme celui-là, j'entends quelque chose caché derrière que je ne peux pas voir, mais que je peux imaginer. Et donc, ce que je cherche moi dans mon travail, c'est à rendre perceptibles des phénomènes qui sont imperceptibles à échelle humaine. Parce que,
dépasser des limites.
Oui, essayer de rendre perceptible, ouais, pour l'être humain à notre échelle, voilà, de faire une transposition, on va dire.
Toute la question est donc de savoir si le travail avec le spatial vient changer les coordonnées de ça et toutes les contraintes que ça représente, si en plus on ajoute l'hypothèse de faire art dans l'ISS.
C'est ça qui est compliqué.
Alors. Dans vos travaux actuels, 10 ans après Major Tom, vous investissez avec Léo Dubu l'intelligence artificielle, cette fois carrément en deep learning.
Donc c'est par rapport à un travail qui est mené avec l'Observatoire de l'espace du CNES, avec les archives, textuel et visuel, mais là notamment visuel. J'explique le projet. Oui, là, donc, très bien. Donc, alors, on a un peu sur le même mode de génération aléatoire, etc. Mais là, avec le biais de l'intelligence artificielle, l'idée est de revisiter finalement tout un corpus d'archives de documents, donc des plans, des prototypes, des dessins, etc. De différents engins spatiaux qui ont été envoyés dans l'espace, donc des fusées, des satellites, des sondes, toutes sortes de il y a quand même un corpus assez varié, donc qui a été donné à une intelligence artificielle, donc qui a été créée de toutes pièces pour le projet, donc c'est une IA qui n'a jamais rien vu d'autre de sa vie, entre guillemets, et donc qui apprend à dessiner ses propres plans d'engins spatiaux. Donc ça crée toutes sortes de choses assez étonnantes.
C'est-à-dire que, oui, c'est une machine autonome qui peut dessiner, mais à quoi on sait ? Est-ce que ce sont des engins spatiaux dans ces conditions ?
Pour le moment, oui, c'est ça, la question est là pour le moment. C'est que c'est assez étonnant parce que la machine a vu en général des plans, donc dessiner du dessin au trait sur fond blanc. Donc on reconnaît ça, la machine sait faire ça. Elle fait des traits noirs sur fond blanc, donc au niveau formel, on y est à peu près, sauf qu'au niveau des créations, on peut pas dire du tout que ça peut ressembler à des engins spatiaux. Des fois, on peut reconnaître certaines formes, des choses, mais la grande surprise du projet, ça a été que finalement, au départ, les premières images qui sont sorties étaient très organiques. On aurait plutôt dit des corps ou des vues de territoire. Et donc, c'est justement ce décalage qui est intéressant dans le travail avec le non-humain qui est l'intelligence artificielle. Et c'est tout un travail aussi de lâcher prise, parce que on a beau nourrir, enfin moi je prends des décisions dans le travail de programmation, qu'est-ce qu'on lui donne à voir, etc. Mais je n'ai aucun contrôle sur les images qu'elle produit, et c'est justement d'arriver à avoir cette nouvelle généalogie d'engins spatiaux, puisque c'est que ça qu'elle a vu. Elle nous crée des choses mais qu'on n'aurait jamais imaginées en tant qu'être humain.
Et que vous êtes forcément amené à valider comme étant des engins spatiaux, alors.
Voilà, oui, on peut dire ça. Après, j'aurais envie de voir justement comment tout ce savoir accumulé qui a été donné à cette entité pourrait éventuellement déboucher sur quelque chose auquel on n'aurait pas pensé et qui serait une bonne idée. Voilà.
Et ce que vous voulez faire, c'est de aussi montrer le geste mécanisé de faire le dessin avec oui. l'élaboration d'un bras robotisé.
Exactement, et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais du bras canadien. Donc l'idée de ce projet, comme dans plusieurs de mes installations depuis quand même une petite dizaine d'années, l'idée c'est de réfléchir à des machines autonomes. Mmh. Donc de leur donner les clés pour faire quelque chose et puis après de voir un peu comment elles se débrouillent. Et donc là, pour le moment, il y a eu une première étape du projet qui a été présentée en mars dernier. Donc, il n'y était que les images générées par l'intelligence artificielle. Mais là, on travaille à développer justement un bras robotisé qui puisse vraiment dessiner, un peu comme le ferait un architecte ou voilà, peu importe, quelqu'un qui serait là à vraiment pour travailler en temps réel avec l'IA au fur et à mesure qu'elle produit donc, des images, que ce soit vraiment articulé comme si c'était vraiment quelqu'un en réflexion sur le dessin. Donc, ça, c'est une première partie du travail. Mais on pourrait imaginer que ça prenne toutes sortes de formes, ça pourrait imprimé en 3D, ça pourrait, voilà, il y a plein de possibles finalement pour faire vivre cette espèce d'objet laboratoire qui tente de recréer quelque chose de nouveau à partir de réactiver en quelque sorte de manière prospective les archives.
Ce bras est en cours de confection.
Exactement.
Vous travaillez avec l'ingénieur en mécatronique Quentin Dena.
Oui.
Alors, dans votre travail d'artiste, comme vous investissez beaucoup le big data avec du traitement de données par des intelligences artificielles, l'essentiel de ce que vous attendez du spatial, c'est de pouvoir faire une collecte de données à une échelle carrément cosmique.
Ça, c'est... Oui, je pense que dans mon travail, par exemple, ce bras robotisé pourrait très bien fonctionner, justement, à partir de données collectées dans l'espace. Donc oui, moi, je le vois vraiment comme une matière dans laquelle aller puiser, finalement.
Ça veut dire que vous faites le projet d'aller puiser dans l'espace des plans d'engins spatiaux qui viendraient d'on ne sait où ?
Ah, je ne sais pas. Peut-être, si on peut faire... on aura peut-être des surprises, mais l'idée, c'est, oui, par rapport à ces plans puisés, etc., donc, ils sont ici, par rapport à ce que l'être humain a créé. Mais par contre, ces plans peuvent être activés par d'autres flux cosmiques. Là, on pourrait, par exemple, étudier ce qui se passe sur le Soleil ou ailleurs, et puis utiliser ce flux de données. Parce qu'en fait, dans la génération avec l'intelligence artificielle, la raison pour laquelle je dis ça, qui est peut-être pas claire pour le public, c'est que tout commence par un bruit aléatoire qui est envoyé à la machine, pour qu'il faut lui donner un déclic, quoi. Donc là, ça peut être n'importe quoi. Et donc, ça peut être, par exemple, comme un peu avec Major Tom, des ondes radio qui sont là et qui viennent perturber le travail en cours pour...
Dans l'actualité spatiale, la mission DART a causé une traînée de 10 000 km de débris après la collision avec l'astéroïde. Qu'est-ce que vous feriez en tant qu'artiste de ces 10 000 km de débris ?
Ça fait beaucoup. C'est un peu difficile d'aller dans l'espace pour les collecter et en faire quelque chose. Je pense que... Je sais pas où sont. J'imagine que c'est un peu étudié, qu'on voit comment ils se déplacent, où ils sont, etc. Moi, j'imagine quelque chose comme, par exemple, en ce moment, on est en train de traverser les débris de la comète de Halley, tous les mois d'octobre. Là, ça porte un nom, c'est les... je sais plus comment on dit. Enfin, voilà, c'est comme les Perséides, mais c'est pas ça, les Orionides, je crois. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi, et c'est surtout pas ici qu'il faut dire n'importe quoi comme ça, mais bon, on traverse cette traînée de poussière, etc., laissée par la comète, et donc peut-être que c'est juste ça qu'il faut faire, surveiller où sont ces déchets, est-ce qu'on les rencontrera à un moment, et juste dire que, on fait une journée fériée,
mondiale de l'ONU.
Ouais. Journée mondiale, comme ça, où on observe ce qui passe là-haut, quoi.
Dans le numéro 2 d'Avant-Poste, la curatrice Julie Versus nous dit que l'espace a du mal à être pensé comme une hétérotopie à cause du poids de réglementation qu'on fait peser sur tout ce qu'on va faire au-delà de l'atmosphère. Qu'est-ce que vous prévoyez pour que l'espace redevienne l'hétérotopie qu'elle était il y a longtemps ?
Est-ce que j'ai le droit de ne pas savoir ?
Ça peut être un programme.
Oui.
À voir. Nous sommes à un petit mi-parcours de ce studio cosmique. Dans la vie, quand est-ce que vous êtes sûr, vous, d'être à mi-chemin ?
Jamais.
Jamais ? Vous savez pas où vous en êtes, en général ?
On peut pas savoir. On peut penser que.
On peut se donner des échelles.
Oui, voilà. Oui. Mais voilà, on peut toujours être surpris. Donc, on ne peut jamais se situer exactement.
Alors, avant d'en venir à ce que vous pourriez faire en tant que curatrice d'un centre d'art installé dans l'ISS, puisque l'intervention dans l'espace requiert quelques aptitudes qui nécessitent qu'on vous pose quelques questions préalables. D'abord, comment est-ce que vous feriez dans l'espace, enfin dans l'ISS, pour accrocher un mobile de caldaire ?
Je le laisserai là. Je le laisserai s'accrocher seul pour voir.
Ah, enfin voilà,
j'aimerais bien.
Comme
oui,
ça.
Voilà, comme ça. Enfin, il risque pas de tomber, voilà, donc ça va. Mais ouais, j'aimerais bien voir comment tout seul il se déploie.
Ah, donc vous l'observeriez.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous feriez de vos observations, enfin, est-ce que vous le.
Ça dépend des résultats.
Ah oui. Voilà. Comment est-ce que vous comptez sélectionner les pièces alors pour résister à l'action destructrice inévitable des rayons cosmiques qui pourraient sévir à bord d'un centre d'art en orbite ?
C'est des...
Pour les protéger.
Voilà, ça c'est bien compliqué. Hein. C'est par rapport à... Il y a plein de contraintes. Hein. Peut-être qu'il faut envoyer des œuvres à vocation éphémère. Ou qu'il faut... Ouais.
Ah oui, qui ne durent pas longtemps.
Qui ne durent pas, qui ne sont pas faites pour... La pérennité, quoi.
Vous auriez un parti pris spécifique pour l'éclairage de l'exposition, sachant que le soleil se lève, se couche 14 fois par 24 heures.
Bah, je trouve que c'est bien, ça rythme des heures d'ouverture.
Vous gardez l'éclairage naturel,
bah,
justement.
Oui,
parce que,
ouais. Oui, oui. Voilà.
Parce qu'on pourrait opter pour un éclairage artificiel totalement contrôlé.
Oui, mais je pense que... Enfin, on fait déjà ça ici. Tant qu'à aller faire une exposition en orbite, je me dis que, voilà, aussi bien... tester les conditions réelles. Enfin, voilà, pour déjà... Je trouve qu'il y a plein de paramètres nouveaux. Tu vois, dans cette... Déjà, on ne peut pas accrocher un tableau. Et on, voilà, on a cette... Il faut, je pense, utiliser les particularités propres pour faire sens, quoi, d'aller faire ça là-bas.
Dans quelle mesure est-ce que vous pensez nécessaire de procéder à une mise en condition préalable du public qui pourrait venir voir ces expositions ?
Ah, mais quel public ! Quel public. La question, c'est comment on,
bah comment on les prépare. Est-ce qu'il y a un test prêt
c'est une grande question parce que ce public là, pour le moment, c'est les astronautes de l'ISS. Il y a pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on peut imaginer envoyer des gens vraiment sur place, ni comment faut les mettre en condition. Oui, sans doute.
Est-ce que parmi les dispositifs élémentaires de médiation, vous accompagneriez les pièces de cartel comme on le fait assez souvent sur Terre ?
Oui, je pense que c'est important quand même ce de cartel ou de enfin oui une médiation.
Oui, c'est le problème du cartel qui se balade, il pourrait se coller sur une autre œuvre.
Ouais. Mais s'il est collé à la base et qu'il bouge plus. Enfin, tout ça, c'est vraiment des questions de physique assez importantes. Hein. Mais on pourrait faire des cartels sonores ou on pourrait faire un petit livret à l'entrée de l'exposition. On retrouve... Il y a des stratégies.
D'accord. Alors, c'est une question qui venait en ouverture. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de l'espace dans l'espace ?
Bah oui, j'espère. Et c'est important. Oui, je me suis posé la question... Justement, je peux en parler maintenant de cette réflexion hein, par rapport à un centre d'art dans l'espace, justement, parce que la question du public, elle est importante déjà. Pour moi, en tout cas, dans mon travail, le public est important. Enfin, voilà, on ne peut pas en faire abstraction. Quand on fait une exposition dans l'espace, on la fait pour qui ? Voilà, déjà. Donc, à partir de là, se pose la question de voilà, qu'est-ce qu'on va leur montrer ? Voilà, c'est un peu...
En fonction de qui peut venir.
Bah oui, voilà, et ouais. À qui on s'adresse, et voilà. Et donc, de l'idée de parler d'autre chose que de l'espace, bah oui, on pourrait peut-être parler, par exemple, je sais pas, de la vie sur Terre. En même temps, la Terre est dans l'espace aussi. Enfin, voilà, c'est... Mais moi, il y a eu cette réflexion à un moment de... Voilà, mais peut-être qu'on en reparlera
plus tard. Oui, on verra. Si le propos est
trop,
si
voilà,
géocentré
c'est ça,
que
oui,
ça.
Exactement.
voici un son. Alors, pensez-vous que c'est plutôt une œuvre sonore ou rien de plus que le système de climatisation de l'ISS ?
Une œuvre sonore.
Ça veut dire que tout devient œuvre dès lors qu'on dit que c'est un centre d'art ?
Non, pas du tout. Mais c'est que ce son-là me rappelle beaucoup les sons qu'on a entendus tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était clair pour le public, mais quand on a écouté l'extrait de Major Tom dans l'installation, il y a quand même une transposition en fréquence audible de ces ondes radio qui sont collectées dans le cosmos. Et ce sont des sons qui sont très proches, finalement, de ça. Bon, évidemment, les scientifiques n'écoutent pas le son des astres, etc. D'accord, mais on peut, comme on les transpose sous forme d'image, les transposer aussi sous forme sonore. Et pour moi, ça me rappelle vraiment ce grain. Ce grain, ouais, du son. Et de, voilà.
Donc pour vous, ça vous rappelle l'œuvre dans laquelle vous avez utilisé ce son ?
Dans laquelle, oui, ce sont ces fabriques, mais sauf que, oui, mais, et même si c'était une. Même le son à la base, s'il est utilisé par les scientifiques, j'ai dit œuvre d'art parce que moi, c'est le genre de son que je peux écouter pendant des heures. Ah et qui devient pour moi de la musique. Je le passe au niveau œuvre.
D'accord.
Si
donc,
cette vocation pas œuvre à la base.
Dans l'exposition que vous pourriez monter dans l'ISS, vous mettriez ce son en continu.
Bah, ça pourrait être intéressant, oui, de travailler justement à donner à entendre, je ne sais pas moi, la magnétosphère par exemple, ou ce genre de choses. Ça peut être, pourrait être très, très agréable, je pense.
L'auteur David Lemagne pense que le visiteur idéal est celui qui garde à l'esprit que voir une exposition nécessite d'être curieux et ouvert tout en restant actif. Mmh. Est-ce que ce serait aussi nécessaire dans l'ISS ?
Oui.
Ah oui ?
Ah oui, je pense. De base, c'est un peu des conditions de base pour, si on n'est pas curieux.
Parce qu'on serait déjà très occupé à peu près tenir sa direction.
Oui, ça c'est sûr. Oui. Ben, je pense que de toute façon, l'état dans lequel, juste d'être là, forcément, ça amènera une condition de curiosité, de comprendre ce qui se passe, comment notre corps réagit dans l'espace. Donc déjà, tout ça, je pense qu'on a déjà les sens bien en éveil.
Et alors, est-ce que vous êtes donc sur le point de croire que la part d'imperceptible sera plus importante dans le centre d'art, comme on le suggérait déjà un peu tout à l'heure ?
Oui, je pense que c'est souvent le cas, en fait, finalement.
Mais c'est un espoir ou une certitude ?
C'est quelque chose à mi-chemin entre les deux.
Vous comptez donc tout faire pour ça ?
Ouais.
D'accord, alors passez ces considérations un peu techniques, examinons de plus près votre projet pour le centre d'art de l'Observatoire de l'Espace. Avant toute chose, comment abordez-vous les contraintes propres au fait d'exposer dans l'espace ? Vous y avez un peu réfléchi ?
Je dirais que j'ai surtout réfléchi à ça.
Ouais.
Parce que, en tant qu'artiste, je produis des œuvres qui sont quand même assez imposantes et je suis constamment confrontée au problème de transport. Déjà sur Terre, c'est compliqué. Voilà. Donc, pour aller dans l'ISS, c'est encore un autre niveau. Donc, je savais bien, à la base, dans ma réflexion, je me suis dit, alors, il faut des petites choses. On ne peut pas envoyer des... Et j'ai eu plusieurs niveaux de réflexion comme ça qui me sont apparus. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait présenter des œuvres sonores, mais il y a tout un dispositif qui sert à présenter des œuvres sonores qui
sont
aussi lourdes
que
les œuvres. Donc, j'ai dit, OK. Et donc, cette première réflexion, pour moi, là, ça a été cette chose, on ne peut pas envoyer de toute façon... on n'a pas de moyen d'acheminer des œuvres énormes. Donc, il faut réfléchir à des œuvres de petit format ou alors à des œuvres.
Pour contourner le problème du poids, vous avez commencé à penser à des œuvres olfactives.
Exactement. Au départ, j'ai commencé. Je refais la petite genèse rapide. Je suis partie de la contrainte en me disant. Premièrement, on va faire une exposition d'œuvres conceptuelles. Ce sera très simple, Comme ça, on pourrait envoyer des pièces très facilement. Je pensais à Robert Berry, qui a fait une pièce qui s'appelle la pièce télépathique, donc où l'artiste envoie de manière télépathique l'idée d'une œuvre et le spectateur doit se concentrer pour essayer de. Je me dis, problème de transport réglé. Et donc j'imaginais
encore
cette
que,
idée.
Y a
encore
quand même
que, bah, il faut qu'il puisse, télépathique. Loin.
Télépathiquement,
voilà. Ouais. Bon, et après, je me suis dit, mais c'est justement là où m'est venue la question de, mais à qui on s'adresse ? Parce que je me dis, ces pauvres astronautes qui sont déjà dans une boîte en fer blanc, qui tournent comme ça autour de la tête, peut-être que la rigueur d'une exposition d'art très conceptuelle, c'est un peu dur, quoi. Et donc, à partir de là, m'est venue cette idée de, à qui on s'adresse ? Pourquoi ? Est-ce qu'on pourrait pas justement parler de la vie sur Terre ? Ma réflexion, ça a été ça, de me dire, mais peut-être que là-haut, la vie sur Terre leur manque. Et qu'est-ce qui pourrait leur manquer ? Et donc là, j'ai eu toutes sortes d'idées Je pensais notamment à Olafur Eliasson avec ses installations où il refait vraiment, Riverbed notamment, où il refait vraiment tout un paysage à l'intérieur d'une galerie. Mais bon, on retombe au même problème qu'avant, donc voilà, hop, on oublie. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée des œuvres olfactives, parce que je pensais au travail de Julie Fortier, donc qui crée ses propres parfums, qui crée des œuvres, notamment, entre autres, mais elle utilise des touches de parfums, les petits bouts de carton là, sur lesquels on peut tester les parfums, et elle les colle comme ça sur les murs pour créer des grandes installations, et donc ses propres parfums qu'elle fait elle-même sont vaporisés, tout ça, et donc là on entre et c'est une œuvre olfactive. Donc je me disais, mais voilà, j'ai réglé tous les problèmes d'espace, c'était la solution parfaite.
Sauf que
là je fais quand même une petite recherche sur Google, les odeurs dans l'espace, comment ça se passe, et je me rends compte que en fait, en visualisant une vidéo d'un astronaute, je sais plus lequel, qui raconte qu'une fois qu'ils sont là en orbite, les fluides dans le corps remontent, ce qui fait qu'ils sont toujours congestionnés et ils ne sentent rien. Et il expliquait qu'ils aimaient bien la nourriture épicée, parce qu'au moins, ils ont un petit peu un rappel de goût. Et là, je me dis, mais mon projet, ça va pas du tout. Et donc, voilà, c'était l'échec, encore une fois, d'essayer de combler tous les problèmes d'espace.
Ou alors, c'est l'occasion de travailler avec des chimistes pour avoir des odeurs très fortes.
Peut-être. Est-ce que c'est possible? Sans doute.
Bien, donc vous engageriez carrément des chimistes, ou alors vous...
Si,
passer à autre chose que la piste olfactive.
Oui. On peut aussi passer à un autre. Voilà, il y a d'autres.
Parce que sinon, alors, pour vous éviter d'avoir à rapporter les œuvres sur Terre, il y a la possibilité de les y laisser ou qu'elles s'y consument. Et vous envisagez des œuvres en matière première périssable.
Oui, c'est la suite de la réflexion. Je me disais, alors peut-être que. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir un peu utiliser cet espace pour comparer. Comment pourraient se développer des œuvres justement à vocation, des œuvres très organiques. Je pensais à Michel Blasi notamment, je l'explique de manière très simple et basique, hein, mais par exemple enduire les murs d'un centre d'art de sauce tomate et laisser les choses évoluer jusqu'à ce qu'il y ait des formations de toutes sortes de moisissures, etc. Et je me disais, mais ça pourrait être génial de voir dans l'espace comment ça arrive. Mais se pose la question des déchets.
De ce qu'on fait après.
Qu'est-ce qu'on en fait après? C'est quand même important parce que... et on va. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces moisissures de sauce tomate? On ne peut pas les jeter comme ça.
Ou alors, il faut les ingurgiter. Les visiteurs viennent. Si les astronautes n'ont plus d'odorat, c'est plutôt bénéfique pour la planète.
Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit, là, tu vois, mais en même temps, c'est aussi. Ça fait aussi partie de l'œuvre. Donc, je me suis dit, oui, c'est tout bénéfice pour les astronautes qui ne vont pas avoir à endurer l'odeur de pourriture. Et en même temps, c'est toute une partie de l'œuvre qui n'existe pas. On revient au même problème que juste avant, quoi.
Alors, il se trouve que l'Observatoire de l'espace a toute une réserve d'artistes qui ont des propositions à vous faire. Mm-hmm. Et donc, voici une question d'un artiste mystère qui vous propose une œuvre et que nous avons anonymisée pour que son identité n'interfère pas dans votre décision de valider ou de ne pas valider son projet.
Bonjour Véronique, je voudrais vous proposer une performance qui s'intitulerait Vertigo. Elle durerait 360 jours, je serai à bord de l'ISS et je voudrais questionner la notion d'équilibre en me photographiant chaque jour dans la même pose, mais inclinée d'un degré par rapport à la veille. Est-ce que ça vous intéresserait d'accueillir cette performance ?
C'est très rigolo comme concept, c'est intéressant, mais est-ce que techniquement c'est possible de s'incliner d'un degré? On en parlait tout à l'heure, comment on tient en place dans cette est-ce que c'est réalisable?
Ça veut dire de montrer le référentiel aussi.
J'arrive à voir à peu près comment on peut, mais comment faire, quoi? Ouais, techniquement sur place pour être sûr.
L'appareil qui prend la photo.
Ah oui, c'est l'appareil qui... Ah, c'est pas ça que j'avais compris de son projet. D'accord, oui. Donc je dois dire si je valide ou pas. Mais il faut rester 360 jours dans l'ISS. Hein.
Oui. Si l'artiste le veut...
Oui. Pourquoi pas?
Alors finalement, vous répondez à la question qu'on posait tout à l'heure. On disait, peut-on parler d'autre chose que de l'espace dans l'espace? Vous avez apparemment tendance à répondre que, plus encore qu'ailleurs, dans l'espace, il s'agit de parler de la Terre.
Oui, parce que la Terre, de toute façon, fait partie de l'espace. Enfin, voilà, on est dedans. Oui, en tout cas, moi, c'était dans cette réflexion d'imaginer ce rapport au public, d'astronaute. Je me disais, forcément, on a, j'imagine, à un moment, une nostalgie de choses sur Terre, quoi.
En tout cas, c'est un art géo-guidé. Quand vous parlez de télépathie, par exemple, vous imaginez donc un art qui se produit dans l'ISS en étant télécommandé depuis la Terre.
Par exemple, ouais.
Quels artistes vous aimeriez inviter ?
Dans la suite de mes réflexions, alors, je pensais à Michel Blasier avec ses moisissures, oui. Et après je me suis dit, voilà, j'aime bien moi ce travail, enfin cette échelle de comparaison entre comment une œuvre peut exister sur Terre et comment elle peut exister là-bas en orbite. Forcément, ça change le sens d'une. Je pense qu'on peut pas juste prendre une œuvre ici, l'emmener là-bas et dire pouf, voilà. Forcément, ça change.
Mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir des œuvres qui auraient un bénéfice à se trouver sous ce nouveau dispositif d'exposition.
Ben, complètement, oui. Dans ma réflexion, enfin, j'y vais de manière un peu chronologique, là, comme ça, dans le défilement des idées. J'avais pensé au trou noir de Anish Kapoor, Descente dans les limbes, là. Donc, c'est un trou, hein. Enfin, c'est pas vraiment un trou, c'est un. Une peinture qui recouvre le sol, qui est le noir le plus noir qu'on puisse faire sur Terre. Donc ça porte un nom, c'est le le nom de
le Vanta Black.
Exactement, qui l'a fait breveter d'ailleurs, donc il est le seul à pouvoir utiliser. Et donc sur Terre, ça nous donne vraiment l'impression d'un noir profond. Et on ne sait pas en fait si c'est un trou ou si c'est juste de la peinture ou si c'est quelque chose entre les deux. Il y a toute cette expérience de se projeter dans ce trou. Et je me dis est-ce que refaire ça dans cet espace en orbite par exemple, quand on n'a qu'à regarder par le hublot et sans doute voir le noir le plus noir qu'on a jamais vu, et de pouvoir comparer finalement ces deux œuvres là, est-ce que ça fait toujours sens une fois là ? Est-ce que ça...
Il y aurait une concurrence des noirs.
Voilà, ouais. C'est ça. Et je trouvais ça...
Le titre tiendrait toujours « Descente dans les limbes » parce que s'il le met par terre, ça devient le plafond en même temps.
Ouais, c'est ça. Ça peut être... faudrait un petit peu peut-être modifier le titre. Monter ou fuite vers le... Je ne sais pas trop. En fait, voilà.
Vous inviteriez également éventuellement Daniela De Polis ?
Je vais penser à une de ses œuvres je suis désolée, j'ai pas le titre.
Writing on the Moon.
Ouais, Writing on the Moon. C'est une œuvre qu'elle a faite il y a longtemps quand même. Hein, je pense que ça doit dater de 2014. Où c'est un radiotélescope qui envoie sur la surface de la Lune un texte d'Italo Calvino, donc parce que c'est l'inspiration de son projet, et qui est réceptionné par un autre. Radiotélescope sur Terre, et où on voit donc sur la vidéo le décalage finalement des sortes de pertes induites par cet envoi puis ce retour dans l'espace. Et c'était pour moi une idée d'imaginer qu'est-ce qui se passe si on, par exemple, on refait ça, tu vois, on repense la pièce par
donc
rapport
là aussi,
à
l'essai. Ça déplace son propos.
Oui, j'imaginais un protocole comme ça, mais parce que je pense que c'est bien aussi de pouvoir. Discuter avec les artistes d'œuvres qu'ils ont faites, de manière de les déplacer, de les repenser, surtout sur une pièce qui date un peu comme ça. Des fois, on a d'autres idées, on a envie de. Je me disais, oui, peut-être que ça pourrait exister en écho, ou qu'elle fasse une autre œuvre dans le même genre, mais avec cet ancrage finalement dans l'ISS.
Parce que quand vous imaginez par exemple l'œuvre de Étienne Rey qui s'appelle Space Odyssey, qui est une installation immersive, vous imaginez qu'elle fonctionnerait encore mieux dans l'ISS avec des spectateurs en apesanteur ?
Non, les idées comme ça que j'ai eues pour des artistes, c'était vraiment dans l'idée de faire en écho.
Ah oui.
Sur Terre.
Donc ça deviendrait des œuvres à deux lieux.
Ouais,
en fait.
Parce que ça, c'est très compliqué. C'est pareil, à mettre en place un vidéoprojecteur, bon, limite, ça va. Mais il faut mettre une machine à fumer là, pour créer les conditions pour qu'on puisse voir les rayons. Et là, il se passe quoi avec la machine à fumer ? Enfin, voilà. Donc c'est tout ça. Pour moi, je me suis dit, il y a une sorte de... Pas d'impossibilité, parce qu'on peut en faire quelque chose de ce centre d'art dans l'espace. Et vivement qu'on en fasse quelque chose. Mais finalement, je pense pour en arriver à finir avec cette contrainte de toutes ces choses qu'on peut pas envoyer, de dire peut-être qu'il faut faire une œuvre, une exposition sur Terre, ici par exemple, voilà, qui fasse écho à ce qui est en train de se passer dans l'exposition en cours dans l'ISS. Donc c'est là où j'avais imaginé toute une sorte d'exposition collective de différents artistes qui puissent répondre à ce qui est en cours là-haut.
Ah oui, et qui vous ramène un public potentiellement plus grand.
Oui.
Puisque comme ça, vous pouvez vous adresser aux terriens.
Enfin, oui, voilà, et on n'encourage pas trop le tourisme spatial, ce qui est pas mal pour notre empreinte carbone.
Et alors, vous avez imaginé dans le même genre d'aller et venu, faire une version comme ça à deux lieux du modulateur-démodulateur de Bernard Planès, qu'il avait co-réalisé avec Arnaud Colombo.
Bertrand Planès, oui. Oui, ben, en fait, j'imaginais bien son travail, deux de ses œuvres d'ailleurs. Il fait, il a un projet notamment qui s'appelle Poème en Morse, où il part, donc c'est un projet très terrestre, hein, où il part comme ça faire des randonnées dans la montagne, et où il pose une balise solaire, lumineuse, et il envoie via ondes radio des poèmes comme ça en Morse qu'on peut voir clignoter la nuit venue dans le paysage. Donc c'est quelque chose que je trouve, voilà, juste toute petite trace laissée par l'homme dans le paysage, et je me disais, bah, peut-être que ça pourrait être intéressant pour les terriens que ce projet, mais bon, après il faut voir comment ça peut être possible techniquement, mais que cette lumière par exemple soit à l'extérieur de l'ISS et qu'on puisse observer via un télescope les poèmes chaque fois qu'on voit l'ISS passer dans le ciel quand c'est possible, voilà. Et dans le même ordre d'idée, donc Bertrand avait fait une autre œuvre, donc le modulateur des modulateurs, qui est un émetteur et un récepteur qui envoie une image, voilà, dans un lieu, par exemple dans une salle fermée. Et donc, par toutes les interférences qu'il y a dans l'espace, les déplacements des spectateurs, etc., l'image est envoyée d'un côté et réceptionnée de l'autre avec des artefacts, ça fonctionne, mais tout à fait, quoi. Il y a des données qui sont perdues. Et là, justement, de travailler à distance sur une partie, par exemple, modulateur dans l'ISS, des modulateurs ici, qu'est-ce qui se passe finalement avec cette image qui est envoyée par la perte qui est du coup beaucoup plus grande entre ces deux lieux, quoi, même extraterrestre et terrestre, et voilà ce qui se passe là. Donc c'est vraiment, encore une fois, une manière de voir comment ces œuvres-là pourraient... juste avoir un propos qui se modifie de par cette présentation en écho avec l'espace.
Alors, il existe une œuvre qui a été pour le coup produite pour être réalisée, pour être dans l'ISS, qui est une œuvre d'Eduardo Katz, que l'on va écouter nous décrire. Il s'agit du télescope intérieur. Je vais vous traduire en même temps.
The artwork that Thomas will make in the space station.
L'œuvre que Thomas Pesquet va réaliser dans la station spatiale internationale.
Doesn't make any sense because it's made of paper and it's fragile.
Elle n'a pas de sens sur la Terre parce qu'elle est faite de papier, elle est fragile.
But in the conditions of zero gravity inside the International Space Station, the isotropic forces of zero gravity.
Sa forme change, mais en apesanteur à bord de l'ISS, les forces isotropiques vont la faire tenir dans l'espace.
We will be able to experience this inner telescope, this object.
Et là, nous pourrons expérimenter ce télescope intérieur.
MOI from one perspective and from another perspective creates this image.
Cet objet qui forme le mot moi, MOI d'un certain point de vue et qui crée l'image d'un être humain avec le cordon ombilical coupé, tête, bras et jambes, flottant dans l'espace, symbolisant l'humanité libérée des contraintes de la pesanteur de notre planète Terre. C'est exemplaire comme réalisation.
Absolument.
Et alors vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pourriez laisser comme œuvre dans l'ISS ?
Alors, j'aurais deux réponses à cette question. La première, une œuvre existante, parce que on a parlé de Major Tom tout à l'heure, donc qui est une pièce qui reçoit des ondes radio, qui crée un texte sur Terre, et donc il y a une édition qui a été réalisée de ça. Donc la machine existe depuis 2012. En 2016, j'ai relu tous les textes qu'elle avait produits. C'était 17 000 pages, un truc comme ça, de texte complètement informe et décousu, que j'ai finalement relu, assemblé, essayé de pour en faire quelque chose, quoi, qui est un recueil de poésie spatiale. Donc qui a été publié aux éditions Sunson, et pour moi c'est un rêve depuis que j'ai fait cette publication de la renvoyer au plus près de l'espace, quoi, de la remettre de là où elle vient, quoi. Donc je me ferais ce plaisir-là d'envoyer le livre. En plus, c'est petit, on peut l'envoyer, ça répond à toutes les
Est-ce
contraintes.
Est-ce que ça suppose de le réécrire un peu, de le redimensionner
Je pense que je connais pas exactement hein, les tailles de bagages cabine pour l'ISS, mais je pense qu'on pourrait l'emmener comme ça et ce serait très bien. Voilà, je verrais bien des lectures organisées comme ça en apesanteur, etc. Donc ça, ce serait pour l'œuvre déjà produite. Et sinon, ce que
œuvre qui serait complètement nouvelle. Complètement nouvelle.
Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait de plutôt que d'envoyer quelque chose, prendre quelque chose, parce que sans rien voler qui puisse servir, bien sûr, mais comme cette question de flux en direct, ça est très présente dans mon travail et sert à alimenter la plupart de mes machines, j'aimerais bien en fait pouvoir partir avec je sais pas, quelque chose qui est mesuré là-haut. Enfin, ils font plein de mesures. Je les imagine toujours en train de travailler. Je me dis, est-ce que je pourrais par exemple avoir accès à, quelque chose, une information comme ça, qu'eux reçoivent en continu, pour alimenter donc cette œuvre terrestre que je suis en train de réaliser, de manière à ce que mon scientifique, le projet s'appelle le scientifique de l'espace, c'était le titre généré par l'IA, de manière à ce que mon scientifique de l'espace puisse être vraiment alimenté à partir de l'espace, justement.
Donc ça voudrait dire que vous pourriez y poser votre capteur, par exemple, ou alors un outil de mesure spécifique.
De prendre un peu comme pour c'est le cas avec les ondes radio ou d'autres choses, je pourrais soit créer mon propre capteur qu'on me donne le droit de mettre quelque part, de coller quelque part dans le lot d'instruments, ou alors de travailler directement avec un signal existant, quelque chose qui est déjà là, quoi.
Eh bien, merci de cette proposition qui alimente le corpus des œuvres à venir dans ce centre d'art installé, ou arrimable en tout cas, à la Station Spatiale Internationale. Merci beaucoup, Véronique Bellan.
Merci.